Radio Okapi. Belinda Busuma Mwamba pour le journal.
Deux enfants morts calcinés par le feu de brousse à Dibaya et Kazumba au Kasaï oriental. Kasaï central, ces feux courants en cette saison sèche ont déjà causé plusieurs pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants, soutiennent des sources sur place. Ituri, des pêcheurs congolais arrêtés hier sur le lac Albert. Des hommes armés ougandais les ont cueillis en pleine activité de pêche la nuit, ainsi que leurs colis de poissons. Les victimes pensent qu'il s'agit d'un acte de vengeance. Et puis, le bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme s'emploie à faire des journalistes des acteurs importants durant cette période préélectorale. Un atelier dans ce sens s'est clôturé hier à Dungu, dossier à suivre en seconde partie de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Kasaï central où les feux de brousse sont à la base des pertes en vies humaines et d'autres dégâts en cette période de saison sèche. Si dans la périphérie de Kananga, ces feux ont calciné deux enfants dans les territoires de Dibaya et Kazumba, ce sont des habitations qui ont été consumées, causant plusieurs dégâts matériels. Reportage de Blaise Ndongala.
C'est lundi passé que l'on a déploré la mort de deux enfants de la localité Benamouanju, un groupement de Benamouchipaï, à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Kananga. D'après des témoins, les victimes avaient suivi leur grande sœur au champ où elle était envoyée par les parents. Après avoir mis du feu au champ, ces feux s'est propagé sur les buissons, comme l'indique le chef de ce groupement. Dépassé, la plus âgée a perdu le contrôle. Elle s'est sauvée par la suite, mais elle n'a pas cependant réussi à sortir ses deux compagnons de ces désastres. Le secours est venu un peu plus tard, alors que les deux enfants étaient déjà calcinés par les et ont rendu l'âme. Le même mardi, les feux de brousse ont détruit plusieurs maisons dans la localité rurale de Matamba, en territoire de Kazumba. Selon la société civile du coin, 9 maisons ont été emportées par ces feux, qui ont également causé plusieurs autres dégâts matériels énormes. Les familles victimes de ces drames passent nuit à la Belle Étoile et sollicitent de l'aide auprès de l'autorité provinciale. Le même scénario était vécu lundi dernier dans les secteurs de Dibanda, en territoire de Dibaya, où une dizaine de maisons ont été aussi détruites par les feux de brousse, qui en est la cause. Des Kananga, Blaise Ndongala Mayanda, Radio Okapi.
Du côté du Haut-Katanga, signalons l'incendie d'une maison hier au quartier Munana par la population locale. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de Lubumbashi. Le propriétaire de cette maison a été soupçonné d'être à la base de la mort d'un jeune homme de 22 ans habitant le même quartier. Pour y parvenir, les membres de sa famille ont promené le cercueil à travers le quartier à la recherche de l'auteur de ce décès, une pratique condamnée par l'autorité communale. Récit des faits avec Paula Munanga.
Pour les membres de la famille du défunt, cette mort jugée des suspects est d'origine mystique. Pour cela, avant son enterrement, ils ont procédé par des rites traditionnels, cherchant à savoir qui en est l'auteur. Vers 11h, quelques personnes ont transporté ce cercueil sur les épaules, se dirigeant vers le cimetière. Tout d'un coup, c'est le cercueil qui les guidait jusqu'à atteindre la maison de celui qui est supposé l'avoir tué. Ce phénomène est connu sous le nom de l'Ondola. Devant une foule de curieux, le cercueil est entré dans une résidence. La population en furie l'a incendié. Son propriétaire était absent. Alerté, le bourgmestre de la commune annexe s'est porté sur les lieux avec les éléments de la police. Devant la résistance des membres de famille d'amener la dépouille au cimetière, le bourgmestre a ordonné à la police de récupérer le cercueil et de l'enterrer. Pour le bourgmestre Kao Zibin Malisawa, le Londola est une pratique déjà interdite. Tous ceux qui s'y adonneront seront sanctionnés. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Direction l'Ituri, 4 pêcheurs congolais ont été arrêtés, 45 kilos de poissons et leur matériel de pêche ravis par des hommes armés identifiés comme des Ougandais. C'était dans la nuit de mardi à hier mercredi sur le lac Albert. L'un d'entre eux a été torturé et admis aux soins dans une structure médicale dans la région, rapporte des sources locales. Sadiki Aboubakar nous relate les faits.
Un journaliste de la région, témoin de l'événement, rapporte que ces Congolais du camp de Kanyanza étaient en pleine activité de pêche pendant la nuit quand ils ont vu débarquer des sujets ougandais bien armés. Certains ont réussi à s'échapper, mais les quatre à bord de deux pirogues de pêche ont été appréhendés. Ces hommes armés ont ensuite ravi tout le poisson pêché par les Congolais ainsi que leur matériel de pêche dont des filets. Partant de leurs échanges en Swahili, les victimes pensent qu'il s'agit d'un acte de vengeance car leur bourreau aurait dit que les Congolais les font souffrir sous le lac. Le technicien de pêche sous le lac Albert confirme cette situation. Justin Vouaweka affirme qu'il s'agit des bandits, des fois armés de fusils et d'armes blanches. C'est depuis environ 2 semaines qu'il constate ces actes de banditisme armé en provenance de l'Ouganda. Nous n'avons pas réussi à joindre le commandant de la force navale congolaise de Kasenyi à ce sujet. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Restons en Ituri. L'association sans but lucratif, les ambassadeurs de bonne volonté, demande au gouverneur de l'Ituri d'abroger son arrêté portant réglementation de la pêche dans cette province. Selon cette structure, cet arrêté est devenu un fonds de commerce pour tracasser, voire tuer les pêcheurs dans les territoires de Mahagi, Irumu et Djougou. Sylvain Guénoor, ancien directeur pays de cet ASBL, dit avoir fait le déplacement de Bounia à Kinshasa pour plaider cette cause auprès des autorités nationales. On l'écoute.
La réglementation des pêches s'impose plus que jamais sur le lac Albert. Nous ne voulons pas vivre l'appauvrissement du lac Albert comme les autres lacs. Je vais citer le lac Édouard. Notre réglementation va souffrir d'or, mais ceux-là qui l'appliquent sur terrain, certainement ce sont des hommes. Je suppose qu'à un certain moment, il y a eu des déviations. Mais tout ce que nous recommandons, que là où il y a eu des déviations, là où il y a eu des tracasseries, que ça soit dénoncé. Et qu'une fois chez nous, on va voir qu'est-ce que nous allons faire. Allons-nous nous taire ou allons-nous mettre des dispositifs administratifs à même de pouvoir mettre hors d'état de nuit ces compatriotes qui se comportent très mal. Je sais que dernièrement, il y a eu un cas de meurtre d'assassinat et il y a une chambre foraine que nous avons tenue. Et ceux-là qui se sont mal comportés ont eu à être condamnés.
Veuillez nous excuser, là c'était plutôt la réaction du gouverneur de l'Ituri qui dit ne pas reconnaître l'existence officielle de cet ASBL dans sa province et affirme que cet arrêté ne sera pas abrogé. Revenons à présent à l'association Les Ambassadeurs de Bonne Volonté qui demande justement au gouverneur d'abroger son arrêté. Écoutez à ce sujet Sylvain Guénoor, ancien directeur pays de cet ASBL.
Lorsque vous lisez l'arrêté veut dire qu'il veut protéger les produits halieutiques, ou disons d'une manière générale, les lacs Albert. Personne n'est contre ça, mais comment cela s'est fait? Non seulement il y a les arrestations, les tracasseries, ça veut dire les rationnements financiers dont fait montre les agents techniques de la pêche, il y a les tueries. Souvenez-vous que ça faisait quelques temps, on a tué plus de 3 pêcheurs et on a blessé plus de 4. Eh bien, voyez ce que ça présente. Ce qui apparaît grave, comme atteinte d'ailleurs à la sécurité de l'État. Cet arrêté est en train de contraindre cette population pécheresse de quitter le pays. Pourquoi? Nous partageons un même lac avec la République de l'Ouganda. Lorsque nous nous réglementons et que de l'autre côté la réglementation ne se fait pas, les contraintes que nous avons chez nous au Congo, on ne les trouve pas en Ouganda, eh bien, la population se dit que notre gouvernement est prêt pour nous tuer, nous irons du côté de l'Ouganda, et nous nous disons comme ambassadeurs de bonne volonté, patriotes que nous sommes, il faut que cet arrêté soit corrigé.
Ces propos ont été recueillis par Alain Rongmouchinj. Le comité laïque de coordination rejette l'idée de la pétition initiée en vue d'obtenir la candidature du cardinal Laurent Mossengo à la présidentielle du 23 décembre prochain. Le porte-parole du CLC l'a exprimé hier à Radio Capi. D'après lui, cette initiative risque de distraire la population sur les revendications importantes que le CLC pose pour le respect de l'accord et la tenue d'une bonne élection en RDC. Jonas Tiombela explique au téléphone de Askin Zibiataoro.
Au niveau du comité laïque de coordination, le CLC en sigle, cette question n'a pas été au rendez-vous. Nous la percevons comme si c'est une façon de nous amener à la distraction pour nous débrancher sur le réel problème qui se pose au pays des élections. À notre humble avis, nous craignons que cette action soit mise en place pour démobiliser les gens pour les actions qui sont prévues par le CLC pour réclamer la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et aussi le respect de la Constitution, notamment la question problématique des troisièmes mandats du président sortant.
Est-ce que le CLC a pris quand même contact avec le cardinal pour en savoir plus?
Nous n'avons aucune indication de l'Église qui nous indique que le cardinal serait dans ce schéma-là. Lorsque nous voyons la dernière déclaration de la conférence épiscopale, elle est claire sur la question des élections dans notre pays et nous craignons qu'elle soit juste monter pour distraire. distraire l'opinion et nous débrancher sur l'essentiel, alors que le peuple congolais tient à tout prix à avoir des élections inclusives d'ici la fin de l'année.
Sachez qu'au début de cette semaine, la Dynamique chrétienne pour l'unité et le développement avait initié une pétition demandant au cardinal Mosengo de poser sa candidature à la présidentielle et que le cardinal lui-même ne s'est pas encore prononcé sur cette demande de DCUD. Toujours au sujet des élections, des délégués des partis politiques, tant de la majorité présidentielle que de l'opposition, y compris ceux de la société civile, se sont retrouvés en atelier hier au CEPAS ici à Kinshasa. Au menu de cet échange, comment mettre en œuvre les recommandations de l'audit du fichier électoral en vue de permettre la tenue des élections apaisées dans le pays? Cette rencontre a été initiée par deux organismes internationaux que sont NDI et Counterpart. Dani Aïda, directeur résident de NDI, explique le résultat attendu de cette rencontre au micro de Jeff Ngott.
Nous avons décidé de joindre nos efforts pour permettre à nos partenaires qui sont la société civile et les partis politiques d'échanger autour des recommandations de l'audit du fichier électoral qui s'est déroulé dans le pays au mois de mai dernier. Et vous savez qu'un certain nombre de ces recommandations se rapportent au fichier électoral et à sa capacité d'amélioration en allant vers les prochaines élections prévues en décembre 2018.
Et vous attendez à quels résultats?
Voilà. Vous savez qu'il y a des recommandations qui sont adressées à ces acteurs-là et ils sont aussi en relation avec la CENI. Donc il est question non seulement pour ces participants d'harmoniser leur vue sur les recommandations, mais également de faire le travail de suivi auprès de la CENI et des autres acteurs du processus pour s'assurer que les réponses attendues de la part de ces partenaires du processus arrivent au bon moment, et ceci dans le but de créer les conditions les plus favorables au déroulement des élections attendues dans le pays.
Comme dit tout à l'heure, l'atelier initié par NDI sur l'audit du fichier électoral a connu la participation de plusieurs acteurs politiques, tant de la majorité que de l'opposition, y compris ceux de la société civile. Parmi les participants, il y avait notamment Félix Tshisekedi de l'UDPS, Jacques Djoli du MLC, François Nzekouye du PPRD et Rose Mutombo de la société civile. Pour les opposants, la CENI devrait clarifier la question des 10 millions d'électeurs sans empreinte digitale, alors que la majorité présidentielle s'en tient sur la date du 23 décembre 2018 pour la tenue des élections. Michel Kifindangoy.
Au cours des échanges, l'opposition politique a fait observer qu'il n'y aura pas élection apaisée tant que les recommandations de l'Organisation internationale de la francophonie sur l'audit du fichier électoral ne sont pas observées. Martin Fayoulou de la Dynamique de l'opposition.
L'OIF a dit que le fichier était perfectible. Et pour rendre fiable le fichier, l'OIF a fait certaines recommandations. Et c'est ce que nous demandons, parce qu'on ne peut pas aller aux élections avec un fichier qui contient plus de 10 millions d'enrôlés fictifs.
Parler du fichier électoral aujourd'hui n'est pas vouloir des élections, estime la majorité présidentielle, qui pense qu'il n'y a pas d'amalgame entre fictifs et personnes enrôlées sans empreinte digitale. Gilbert Mouika, coordonnateur de la centrale électorale de la majorité présidentielle.
Ces gens dont les empreintes digitales sont illisibles sont des citoyens congolais. Au niveau de la majorité présidentielle, nous avions proposé qu'on revienne au cas par cas. Parce que s'il n'a pas un doigt, il n'a pas deux doigts, au moins il a son visage. Et la photo est là.
Alors que la société civile recommande qu'un cadre de concertation soit mis en place pour dissiper toute divergence, certains regroupements d'opposition, comme la nouvelle initiative pour le Congo de Florentin Mokonda Bonza, s'est dit non partant pour un processus qu'il qualifie de vicieux et porteur de germes des conflits.
Élection toujours, notez cette réaction de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, qui qualifie la décision des animateurs du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC d'excès de zèle. En effet, le CESAC a demandé aux journalistes qui ont postulé aux élections provinciales et législatives 2018 de quitter la corporation. Selon le président de l'UNPC, le CESAC n'a aucune qualité pour prendre cette décision. Joseph Boukar Kasonga Chilunde, au micro de Paul Matendo.
Le CESAC n'a aucune qualité pour le faire, parce que les journalistes sont gérés par l'UNPC. Ça, c'est un. De deux, lorsque quelqu'un a postulé, cela ne veut pas dire qu'il est déjà élu. Donc, il n'y a aucune raison pour demander à quelqu'un qui dépose sa candidature quelque part et de lui demander d'arrêter de prester comme journaliste. Tous ceux qui postulent ne peuvent abandonner la profession que lorsqu'ils sont élus. Le métier de journaliste, c'est une profession libérale. Donc, tant que le journaliste n'est pas encore élu, il continue à prester. Et à un moment donné, lorsque la campagne va commencer, le journaliste lui-même va se trouver dans une position où il n'est plus à mesure et de prester et de mener la campagne. Et de lui-même, il va arrêter. Mais à l'état actuel des choses, Imaginez-vous par exemple que le 23 décembre, on dise les élections sont reportées d'une année. Mais le journaliste qui aura déjà démissionné, quel sera son sort? Ce que les autres font là, c'est un excès de zèle.
Actualité, Afrique Monde.
Les économies de la RDC, de la Guinée, de l'Algérie et du Maroc passent en revue comme chaque année par le département d'État américain consacré au climat de l'investissement dans le monde. Objectif, fournir des informations sur plus de 170 pays. Les entreprises américaines de toute taille peuvent s'inspirer de ces rapports pour identifier les marchés sur lesquels faire des affaires, note la branche de l'exécutif fédéral en charge des relations internationales. À Johannesburg, en Afrique du Sud, s'est ouvert hier le sommet des BRICS. C'est le regroupement des pays émergents tels le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Parmi ces cinq grandes puissances, seuls les présidents sud-africains et chinois étaient présents au premier jour. Cyril Ramaphosa et Xi Jinping ont donné le temps de cette 10e rencontre des BRICS, un sommet avec deux préoccupations majeures, le développement du continent africain et la riposte face aux mesures protectionnistes de Donald Trump. Entre-temps, la 22e conférence internationale sur le sida s'est poursuivie toute cette semaine à Amsterdam aux Pays-Bas, un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs de la lutte contre l'épidémie. La société civile y est représentée via une coalition d'organisations qui a lancé une nouvelle campagne à l'occasion de ce rendez-vous pour dire non à la guerre contre les drogues telle qu'elle est menée, un véritable enjeu de santé publique dans la lutte contre le VIH. Des associations africaines s'y sont jointes.